Bonjour. En ce premier mercredi du mois de décembre, nous nous retrouvons sur fréquence 7 à 12h30 ou 17h30 pour l'émission de Claire d'Étoile. C'est Denis de l'association Claire d'Étoile et Brin de Jardin qui nous présente aujourd'hui cette émission. Bonjour Denis.
Et par Françoise, également de Claire d'Étoile. Bonjour Françoise.
Comme tous les mois, nous présenterons d'abord un bref panorama de ce qu'il sera possible de voir dans le ciel, à l'œil nu ou aux jumelles, dans le mois qui vient. Puis suivra un focus consacré cette fois aux possibilités de vie extraterrestre. Denis, que verrons-nous donc dans le ciel au cours de ce mois de décembre ?
Peu de nouveautés par rapport au mois de novembre. Nous avons toujours Mars, qui règne en maître toute la première partie de nuit, haut dans le ciel, du sud au sud-ouest. Mars se trouve tout le mois de décembre dans la constellation des Poissons, qui n'est pas la plus facile à reconnaître. Le 23 décembre, la Lune en sera très proche, mais il n'est pas besoin d'attendre cette date pour repérer cette belle planète très lumineuse sous la forme d'un astre brillant rouge-orangé. Jusqu'en milieu de mois, un peu avant et après le lever du jour, on continue à apercevoir la très brillante Vénus, mais elle est très bas sur l'horizon et va bientôt nous quitter pour passer derrière le Soleil et devenir ainsi invisible pour plusieurs semaines. Le couple Jupiter-Saturne n'est plus visible qu'en tout début de nuit vers 18h pour disparaître très vite sous l'horizon ouest. Mais cette disparition sera bientôt l'occasion d'assister à un phénomène exceptionnel que vous ne verrez que rarement. À peu près tous les 20 ans, Jupiter et Saturne se rapprochent visuellement. Attention, ce n'est qu'une illusion en perspective due à un alignement seulement vu depuis la Terre. Cette grande conjonction, souvent spectaculaire, a été par le passé associée à des catastrophes. Et certains historiens pensent qu'elle aurait pu donner lieu à la légende de l'étoile des rois mages. Ce rapprochement sera relativement bas sur l'horizon, donc il faudra choisir un emplacement où l'horizon sud-ouest est bien dégagé. Le rapprochement le plus serré aura lieu le 21 décembre, jour du solstice d'hiver, mais ce n'est qu'une coïncidence. N'hésitez pas à utiliser des jumelles si vous en possédez, mais cela restera spectaculaire à l'œil nu. La conjonction commencera plusieurs jours avant, et en particulier le 17 décembre, la Lune viendra rejoindre les deux compères. Là, si vous disposez d'un appareil photo, le cliché devrait en valoir la peine. Profitez-en en tout cas, surtout si vous n'êtes pas dans la prime jeunesse. Le prochain rapprochement dans d'aussi bonnes conditions n'aura pas lieu avant 60 ans.
Merci Denis. N'étant pas dans la prime jeunesse, je vais me préparer. Car pour la suivante, en 2080, je n'y crois pas trop. Le mois dernier, le focus était consacré aux exoplanètes, ces planètes que l'on découvre par milliers en dehors de notre système solaire, et plus particulièrement à une réflexion sur le nombre de planètes similaires à notre bonne vieille Terre.
Oui, et lorsqu'on commence à se poser des questions sur les similitudes des exoplanètes avec la Terre, c'est que derrière se pose l'inévitable interrogation. Y a-t-il de la vie ailleurs ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Vaste et passionnante question que nous ne pourrons qu'effleurer dans cette émission.
Pour commencer, une interrogation pas si facile. Qu'est-ce que la vie ? Doit-elle être similaire à ce que nous connaissons sur Terre ? Et y aurait-il la moindre chance qu'il existe des êtres humains ou humanoïdes ailleurs ?
Les probabilités sont infimes. Même avec des formes de vie basées comme la nôtre sur la chimie du carbone, nous savons depuis Darwin que l'évolution suit des chemins complexes et multiples. Il n'y a quasiment aucune chance qu'elle emprunte deux fois de suite le même chemin. Mais cela n'interdit pas cependant des similarités, même grossières. Après tout, par exemple, presque toutes les formes vivantes ont développé des organes de vision sensibles aux radiations électromagnétiques que nous envoie notre Soleil.
Oui, mais ils sont drôlement variés. Entre un œil humain et ceux d'une coquille Saint-Jacques, existe un océan de différence. Et puis, la vie pourrait être basée sur des chimies différentes de celles du carbone et de l'eau. On a parfois évoqué des possibilités autour du silicium, de l'ammoniac. Et je ne parle même pas des vies artificielles.
On pourrait en effet en parler des heures. Mais on va se focaliser uniquement sur la chimie du carbone qui, dans notre univers, associée à l'eau comme solvant, offre une quasi-infinité de créations de molécules organiques différentes, bien plus que les autres corps chimiques que tu as évoqués.
Dommage, mais en effet, chaque chose en son temps et il y a déjà beaucoup à dire ainsi. Par exemple, pour que la chimie du carbone associée à l'eau puisse produire les nombreuses molécules géantes nécessaires à la vie, plusieurs conditions spécifiques sont absolument nécessaires, à commencer par la présence d'eau.
Liquide.
Oui, sinon pas de solvant. Et aussi des autres briques de base qui constituent ces molécules du vivant, qui sont en général des hydrocarbures.
Comme le pétrole.
En effet, d'ailleurs, l'origine du pétrole est bien biologique. Et en plus du carbone, la vie utilise majoritairement des atomes d'hydrogène, d'oxygène et souvent d'azote.
Cela tombe bien, car nous savons maintenant que ces atomes font partie de ceux que synthétisent en plus grand nombre les supernovae, qui sont les génitrices de l'ensemble des atomes, en dehors de l'hydrogène et de l'hélium qui constituent notre univers. Et qu'ils s'associent parfaitement bien avec l'atome de carbone. Ce sont les briques du fantastique Lego à partir duquel sont fabriqués tous les êtres vivants, au moins sur Terre.
On peut toutefois se poser la question de la présence de l'eau. Par exemple, sur les autres planètes du système solaire, nous n'avons pas trouvé de preuves de présence abondante.
Pas sur les grosses, en effet. Encore que l'on ait de forts espoirs sur la présence d'eau dans les calottes polaires de Mars et que l'on soupçonne qu'elle a été plus abondamment présente dans le passé. En revanche, il a été détecté d'énormes quantités d'eau liquide sur plusieurs satellites des grosses planètes, Europe et peut-être d'autres autour de Jupiter, Encelade et peut-être Titan autour de Saturne.
Il y en aurait également sous la surface de Pluton, de Cérès.
Sans compter les milliards de comètes. Décidément, il y a de l'eau partout dans le système solaire. Et on a du mal à imaginer pourquoi il n'y aurait que chez nous que l'eau soit omniprésente.
Certes, mais encore faut-il qu'elle soit liquide. La vie telle que nous la connaissons a donc besoin d'eau liquide pour que la chimie du carbone soit efficace, en particulier comme solvant pour les réactions chimiques et surtout comme composant des cellules vivantes. Or, dans notre système solaire, seule la Terre présente à sa surface les conditions suffisantes pour garder de l'eau liquide, une température raisonnable et une pression atmosphérique non nulle. Vénus possède une atmosphère très dense, mais sa température est bien trop élevée. Et Mars, qui pourrait à la rigueur bénéficier d'une température suffisante, n'a pas une atmosphère suffisamment dense pour conserver l'eau liquide. La Terre est donc bien seule.
Pas si sûr finalement. Car si on regarde bien, Europe et Encelade semblent abriter de véritables océans d'eau liquide protégés par une couche supérieure de glace. La chaleur nécessaire pour la liquéfaction provient des forces de marée imposées par les planètes géantes autour duquel elles tournent. L'eau liquide est donc plus présente que ce que permettrait ce que l'on appelle la zone habitable. Et puis faut-il vraiment se polariser sur l'eau liquide ? Même sur Terre, il existe des algues des neiges qui survivent uniquement dans l'eau gelée. Et quelle surprise pourrait nous révéler encore les lacs de méthane de Titan ?
Donc, pour en revenir à nos exoplanètes, dont plusieurs milliers connues à ce jour, faut-il le rappeler, et probablement plusieurs milliards dans notre seule galaxie, un nombre conséquent est statistiquement présent dans la zone habitable, ni trop près, ni trop loin de leur étoile, pour permettre la présence d'eau liquide. Mais cela suffit-il pour qu'elles hébergent de la vie ? Et cette vie ressemble-t-elle à celle que nous connaissons ? Et enfin, comment le savoir ?
Beaucoup de questions délicates, pour lesquelles nous n'avons pas de certitude, mais on peut toujours essayer d'imaginer des réponses. Pour la première, nous savons que la chimie du carbone est tellement riche et foisonnante que la seule présence d'eau liquide implique une forte probabilité d'apparition de molécules complexes, d'hydrocarbures, de protéines et pourquoi pas de cellules autoreproductrices, le début de la vie en somme. Aucune réponse absolue donc, mais de bonnes probabilités favorables.
Pour la seconde question, la vie ressemble-t-elle à la nôtre ? Ce que nous connaissons de la biologie et de l'évolution nous conduit à penser qu'elle serait différente, et même très différente. Inutile de rêver à des éléphants ou à des humanoïdes extraterrestres. L'évolution est tellement variée qu'elle n'emprunte jamais deux fois le même chemin. Ce qui veut dire que nous pourrions être extrêmement surpris. Il existe même des chercheurs, minoritaires certes, qui pensent que les processus qui ont amené au développement de la vie reposent sur tellement de hasards qu'il y a peu de chances qu'ils se reproduisent ailleurs et que nous serions l'exception.
J'ai du mal à être aussi pessimiste. Mais regardons comment répondre à la troisième question. Comment détecter des traces de vie sur des exoplanètes ? C'est une véritable enquête policière.
Toute vie engendre des signaux extérieurs, des traces, des pollutions. Dans l'atmosphère terrestre, par exemple, on trouve de l'oxygène en quantité, résultat de la photosynthèse due à l'activité des plantes et surtout du phytoplancton, et de nombreux autres marqueurs comme le méthane, un hydrocarbure très simple, résultat concret, lui, de la vie animale.
Ah oui, les flatulences.
C'est ça. Pour le dire plus simplement, les pets des vaches ou d'autres animaux. Or, nous avons les moyens de détecter ces gaz à grande distance en analysant la lumière qui nous provient des astres lointains. C'est ce que l'on appelle la spectroscopie, technique qui mériterait bien à elle seule un focus spécifique.
Nous voilà donc passés des hautes envolées aux plus triviales, mais la recherche est souvent cela. Merci Françoise, nous allons donc en rester là pour cette émission en vous donnant rendez-vous au mois prochain.
Merci Denis et à l'année prochaine. Merci.